لغيري كما مددت يدا وغيرك لا يفيض ندا وليس يضيق بابك.
الله سبحانه وتعالى lorsqu'il a parlé de la femme, il a parlé d'elle comme étant un être issu de la même essence que l'homme. الذي خلقكم من نفس واحدة. Il y a une égalité dans la responsabilité dont Dieu a chargé l'homme et la femme. Toujours on a cette image d'accusation de la femme et l'homme il s'oublie dans l'affaire. Alors que la responsabilité elle est partagée à tous les niveaux. La femme elle est devenue celle qui est désignée comme à l'origine du mal. Ah, ça. Vous regardez qu'est-ce qu'ils ont à dire. Parce qu'il n'y a jamais une femme qui commet l'adultère sans un homme. Il y a mushtaraka. Qui va devenir doctoresse musulmane? On va l'inventer, cette doctoresse musulmane. طلب العلم فريضة على كل مسلم. المسلم هو الرجل والأنثى dans notre religion. Et son rôle important dans le domaine de l'éducation, ça veut dire qu'on doit avoir des femmes professeurs, des femmes pédagogues. Donc il ne s'agit pas uniquement du savoir purement religieux. Arrêtez d'avoir une attitude de conflit entre les hommes et les femmes. L'islam est une religion qui reconnaît l'égalité de l'homme et de la femme au niveau de leur essence.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Avant de commencer cette conférence, bien sûr, je vous transmets tous mes vœux et mes félicitations pour la fête du sacrifice. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et agrée de nous tous nos actions et qu'il fasse que cet événement ou cette occasion soit le moment d'acceptation de nos invocations pour qu'Allah change l'état de cette communauté. Le sujet d'aujourd'hui, le statut de la femme. Je vais, avant d'analyser cette question de manière un peu plus approfondie à travers certains sujets bien précis qui interpellent la situation de la femme, faire une petite introduction. Dans cette introduction, j'aimerais bien sûr situer le cadre du sujet par rapport à la mémoire collective de nos concitoyens non musulmans, puisque nous sommes quand même des citoyens vivant en Europe. Il est intéressant de savoir, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on dit, comment les médias et les non musulmans représentent-ils cette femme musulmane. Sans trop entrer dans les détails, la plupart des images diffusées dans les médias concernant les femmes musulmanes sont des images de femmes soumises, de femmes voire martyrs. Lorsqu'on parle de la femme musulmane, les médias toujours traitent du sujet du voile, hijab, c'est le sujet qui revient sans arrêt, et l'image de la femme donc exploitée, qui n'a pas de rôle à avoir dans la société. Une autre constatation, c'est que nous, d'après l'analyse et la lecture que nous avons faite, la stratégie des médias, la stratégie principale des médias lorsqu'ils traitent de la question de la femme musulmane est une stratégie par laquelle la femme, ils essaient de mettre en cause les prescriptions religieuses musulmanes qui sont à l'origine de cette situation triste de la femme musulmane. Et puis on a des clichés qui reviennent sans arrêt, donc l'héritage, le témoignage, le mariage et la polygamie. Et donc ce sont les thèmes, toujours les clichés, les stéréotypes qui reviennent chaque fois qu'on parle de la femme. Mais surtout l'image négative, c'est celle de cette femme qui est soumise, qui est martyre et qui est obligée de mettre le foulard, le hijab. Je vous cite quelques citations comme ça de certains journaux qui ont un impact en Europe. Ainsi, par exemple, le Nouvel Observateur du 2 du 4 89, il dit ceci: les jalousies frénétiques, les meurtres des sœurs par les frères, les petites filles mariées à d'influents barbons, le lynchage des homosexuels, l'amour impossible, il y a tout cela sous le tchador. Vous voyez, je ne sais pas qu'est-ce que l'homosexualité vient avoir avec le tchador, et le tchador c'est le foulard, mais vous voyez que le discours. Un autre aussi, François Burga, qui lui, il ne se place pas comme un critique, mais il expose dans son livre « L'islamisme en face », l'édition Kartala, ce que l'autre pense et dit des musulmans.
Il dit, donc il rapporte que sur la question du foulard, sur les signes d'une soumission de la femme, il symbolise l'inégalité des sexes et l'enfermement de la femme. Autre image, avec laquelle je vais conclure, parce que ce n'est pas le lieu pour entrer dans le débat, mais on peut un jour peut-être faire une conférence sur l'image de la femme musulmane dans les médias. Et donc, l'influence de l'idéologie islamiste, elle seule pousse au voile. Cette idéologie est fondée sur l'apartheid sexuel. Ça, c'est Le Monde, le journal Le Monde, du 15/12/01, c'est-à-dire 2001. Vous voyez, donc voilà, dès qu'on parle de la femme musulmane, c'est toujours ces questions-là, l'aspect, elle n'est pas libre d'agir sur le plan sexuel, elle est une femme soumise parce qu'elle doit mettre le foulard et cacher son corps. Et donc, nous allons essayer, nous, d'approfondir la discussion pour montrer que le débat, elle dépasse cette question du foulard, mais pour proposer en vérité une autre optique de la femme. Et c'est cette optique-là que les musulmans doivent connaître, sont censés savoir et assumer, hommes et femmes. Et malheureusement, dans notre communauté, il y a des hommes qui ne connaissent pas ce sujet et ils traitent la femme comme un être inférieur, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont dans la réalité. C'est ce que le frère Karim a mentionné en parlant de l'attitude de certains musulmans. Et puis nous avons aussi des positions de femmes musulmanes qui croient que dans sa relation avec l'homme est une relation de combat, de guerre et de pouvoir et de contre-pouvoir. Donc on va essayer de situer le rôle de la femme tel que notre religion l'a préconisé, tout en parlant, comme j'ai dit, des questions qui sont plus concrètes. Une deuxième introduction après cette petite introduction concernant l'image de la femme musulmane dans les médias européens, c'est de rappeler l'importance de la morale dans tout sujet abordé par cette religion, par la religion musulmane. Notre religion, elle a pour fondement principal l'éthique. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait de cet élément, on en a parlé un petit peu lorsqu'on a parlé de l'usure, mais on peut toujours, chaque fois qu'on aborde un sujet, on va faire référence à l'aspect éthique et moral. Même si on avait à intervenir sur une question d'ordre politique, on parlera de l'aspect éthique et moral. C'est très important. Alors notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a résumé son message en disant « Inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq ». Certes, je n'ai été envoyé que pour parfaire les bonnes vertus. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, toute religion a un khuluq. Elle a, on va dire, une règle morale principale. Et la règle principale de la religion, de l'islam, c'est al-haya, la pudeur, la décence. Dans le sens le plus large du terme, la retenue, la décence et la pudeur. Et ne confondez pas la pudeur avec al-hishma, la timidité. La timidité, ça n'a rien à voir avec al-haya. En arabe, on dit al-haya, donc pour la pudeur, tandis que la timidité, c'est l'insanon, et il a khajoul. Et c'est un aspect négatif dans la personnalité. Notre prophète était pudique, mais il n'était pas timide, alayhi salatu wassalam. On demande aux musulmans d'être des gens pudiques, décents, mais on ne leur demande pas d'être des personnes faibles, timides. Parce que le timide, il est incapable d'agir face aux situations où il doit dire la vérité. Notre prophète sallam se mettait en colère lorsqu'on bafouait la loi de Dieu, mais il était plus pudique que la vierge, que la jeune fille vierge, disent les textes. Donc al-haya, et ben dans cette question de la femme, parce qu'on va parler de certains aspects du statut de la femme, n'oubliez pas, c'est un rappel, l'importance de la pudeur que l'islam demande aux hommes et aux femmes musulmanes. Puisque aujourd'hui on va parler de la femme, c'est normal qu'on parlera un petit peu de cette retenue et pudeur dont il est question. Ça, c'est un deuxième règle sous forme de rappel pour que vous compreniez très bien le sujet dans son contexte islamique. L'islam, lorsqu'il parle de la femme, il n'en parle pas comme un individu isolé. Il en parle comme étant un partenaire nécessaire et principal dans la constitution du couple humain. Et cette règle du couple, elle est une règle universelle autour de laquelle tourne toute la création. Toute la création est composée de pères. Toute la création. Alors, n'oubliez pas cette équation que lorsqu'on va parler de la relation de l'homme avec la femme, lorsqu'on va parler de son statut, qu'il y a cette importance, cet élément est important, la question du couple. Et j'ai dit, هذا قانون, c'est un ناموس عالمي. C'est une règle universelle. Toute la création tourne autour de cette notion-là, du couple. Dis même, excusez-moi si je vais un peu vous brusquer maintenant, même les homosexuels reconstituent la notion du couple. Il faut qu'il y en ait un qui joue le rôle de la femme et l'autre qui joue le rôle de l'homme. Ils ne peuvent pas s'en défaire. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Subhanalladhi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tumbitu al-ardu wa min anfusikum wa mimma la ta'lamun. Pureté à celui qui a créé tous les couples, de ce qui fait pousser la terre, de vous-même et ce que vous ne savez point. Donc, la notion du couple, elle est importante. Mais bien sûr, pour nous, le couple, c'est homme-femme. Nous sommes dans une société qui nous propose maintenant 10 schémas de couple. Je parle des couples humains, 10 schémas. Nahna, on est attaché au schéma qui est celui de la nature humaine, c'est un homme et une femme. Ça, c'est notre religion. N'oubliez pas, lorsqu'on va aborder certains aspects du statut de la femme, de garder dans l'esprit deux éléments importants, l'aspect éthique, qui est principal et fondamental, pas uniquement pour la question de la femme, mais dans tous les sujets abordés par cette religion, qui a fait de la morale et de l'éthique un élément principal et fondamental pour l'organisation de la société et de la vie humaine qu'elle propose. Deuxièmement, l'importance de la notion du couple homme-femme. Maintenant, est-ce qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre, l'autre est inférieur? Ça, on va en parler. Donc ça, ce sont des éléments. Parce que lorsqu'on comprend cette notion du couple, on comprendra la répartition des tâches entre l'homme et la femme dans la vie humaine, dans la société humaine. Mais aussi, un autre élément, sachez que l'homme n'est pas parfait et la femme, elle est un complément à son imperfection. Et sachez que la femme n'est pas parfaite et l'homme est un complément à son imperfection. C'est pour ça qu'ils sont partenaires. Ça, ce sont des éléments donc que j'aimerais bien que vous gardez, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Ali Imran, sourate 3, le verset 195, il dit « Ba'avukum min ba'av ». Il parle ici de l'homme et de la femme. Lorsque il a parlé subhanahu wa ta'ala de l'origine, de l'essence de l'homme et de la femme, de leur origine, de leur genèse, il a dit ba'avukum min ba'av. C'est très important, ces deux mots coraniques qui veut dire les uns vous êtes des autres. Il y a une relation incessante entre l'homme et la femme. Un homme ne peut pas vivre sans femme et la femme ne peut pas vivre sans homme. C'est très important dans la notion musulmane. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé de la femme, il a parlé d'elle comme étant un être issu de la même essence que l'homme. Min nafsin wahida. Nafsin wahida. Qala ta'ala dans sourate An-Nisa, sourate 4, verset 1. Alladhi khalaqakum min nafsin wahida. L'origine de la création, c'est une âme unique. Nafs. Unique. Et un débat qui n'a pas de sens, est-ce que c'est l'homme qui fut le premier ou la femme qui est le première? Allah ne nous a pas informés sur l'ordre chronologique. Que les choses soient claires. Dieu ne nous a pas informés. Et je viendrai à ce fameux hadith qu'on interprète mal, que la femme a été créée d'une côte de l'homme, tordue de l'homme. Et donc beaucoup expliquent ce hadith à la lettre, que pour de bon, la femme a été créée d'un os tordu. Alors que Dieu dit, « Min nafsin wahida ». Il n'a pas dit l'homme min nafs et la femme min dhul'an a'waj. Le hadith il existe, mais sa compréhension est tout à fait grave et erronée. Lorsque Dieu dit subhanahu wa ta'ala min nafsin wahidatin, vous voyez que nafs elle n'a pas de qualité masculine ou féminine. Nafs, elle n'est ni féminin ni masculin, un nafs. Ça c'est très important. Donc un nafs n'a pas une caractéristique physique. Huwa jawhar, c'est un corps subtil qui n'a rien à voir avec le corps physique. Et la création, comme vous le savez, a été au début de l'anfos. Puis après, subhanahu wa ta'ala, Dieu a fait que nafs va habiter l'habitacle qui est le corps. Et la preuve, nous avons le hadith sahih, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant que les êtres ne fussent créés, physique, corps, âme, il a quoi? Il a appelé toutes les âmes dans Alam al-Barzakh, dans le monde, on va dire, des âmes. Et il leur a demandé, est-ce que vous certifiez que je suis votre Seigneur? Qalu bala shahidna. Ils ont certifié que Dieu est leur Seigneur. An-nafs mujarrada 'ala al-jism, disent nos savants. L'âme humaine n'a rien à voir avec l'aspect physique mâle et femelle des corps au début. Donc hiya laysat dhakaran wa laysat untha. Et dans cette âme où il n'y a pas la présence de la notion de mâle et de femelle, Allah a créé aussi la femme. Nafs wahida. C'est-à-dire de la même essence. Donc, ni l'homme ne peut prétendre être lui antérieur, et il est à l'origine de la création de la femme, ni la femme ne peut prétendre que c'est elle qui est antérieure à l'homme, et donc c'est elle qui est à l'origine de la création de l'homme. On n'a pas cette notion. Et donc, le fait, comme j'ai dit, que certains ont dit qu'ils ont été influencés par la lecture israélite pour donner l'exégèse du hadith que Allah a attendu que Adam s'endort et somnole pour tirer une côte tordue de son corps, et de là il a créé Hawa. Déjà, sans même lire ce texte, vous-même comme musulman, sachant quels sont les attributs de Dieu, vous ne pourrez pas accepter cette explication, parce que Allah, son action est entre le kef et le nun. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Allah subhanahu wa ta'ala ne subit pas la notion du temps. Il est en dehors du temps. C'est pour nous expliquer les phases de la création comme lui il l'a voulu, subhanahu wa ta'ala, pour qu'on comprenne comment fonctionne l'univers. Mais Dieu, il est en dehors du temps. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut quelque chose, il lui dit soit elle y est. Comment peut-on accepter que ce Seigneur, il a dû attendre que Adam s'endorme pour retirer une côte et de la créer une femme? Déjà, la compréhension, elle est tout à fait erronée par rapport au texte de la loi et du point de vue théologique. C'est pour ça que nos savants disent, ce hadith parle du caractère uniquement de la femme dans certaines situations et par rapport à certaines phases par lesquelles elle passe au niveau de son organisme, mais non pas par rapport à ce d'où est-ce qu'elle a été créée. Mais l'unanimité, c'est que l'homme et la femme sont créés d'une même essence, de cette âme unique qui est l'âme humaine. Donc c'est un jawhar, c'est un corps subtil qui n'a rien à voir avec. Donc vous voyez qu'à l'origine même, Dieu va mettre une égalité entre l'homme et la femme. خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ هُنَاكَ مُسَوَاتٌ égalité فِي الْجِنْسِ qui est l'essence unique entre l'homme et la femme. C'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque notre religion propose cette position, au Moyen-Âge, dans l'Église, on discutait si la femme avait une âme humaine ou une âme diabolique dans le temps. Nahna, directement, au point de début, Dieu dit l'essence est unique. Nafsun wahida. Idan, idak hunaka musawatun bayn al jinsayni. Il y a une égalité entre les deux sexes, homme, femme, dans leur essence et nature. C'est très important. Ça, c'est la première. Excepté ce que nous allons voir après, dans les questions de la responsabilité de taklif, où alors là, les textes vont venir pour dire. Par rapport à la capacité physique d'un tel, il y a telle charge, et par rapport à la capacité physique d'un tel, il y a une autre charge. Et cette répartition de la responsabilité n'est pas uniquement entre l'homme et la femme. Elle est entre les hommes et les hommes, et les femmes et les femmes. Comme vous le savez, entre le bien portant et le malade. Le taklif n'est pas le même. Oui ou non? Lorsque vous êtes bien portant, il y a une responsabilité juridique qui vous incombe. Si vous êtes malade, il y a un autre discours juridique qui s'adresse à vous. Si vous êtes voyageur, c'est pas comme lorsque vous êtes résident. Si vous êtes un enfant en bas âge, c'est comme quelqu'un, c'est pas comme quelqu'un qui est adulte. Et si vous êtes adulte, c'est pas comme quelqu'un, un vieillard sénile. Donc la responsabilité, elle va diverger, elle va être différente au niveau juridique par rapport à la capacité physique. Et c'est tout à fait normal qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'appelle Al-Adlu, le juste par essence, il va pas ordonner, il va pas charger l'homme et la femme des mêmes responsabilités s'il y a décision de sa part, subhanahu wa ta'ala, qu'au niveau physique, ils n'ont pas les mêmes capacités. C'est tout à fait logique. Sinon, il n'y aura pas de justice de la part du Seigneur. Chargeant une femme d'être elle, celle qui conçoit l'enfant, et on lui demande de faire la prière du Jumu'ah sans la rater. Et on lui demande d'assumer toutes les obligations religieuses, sociales, quoi, à l'égal de l'homme. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Eh bien, au niveau aussi de la participation, de l'activité sociale et de la responsabilité sociale, Allah subhanahu wa ta'ala va charger l'un et l'autre par rapport à leurs compétences physiques. Mais je répète, au niveau de l'égalité quant à leur origine, il y a une égalité totale reconnue par le Seigneur, puisqu'il a dit « min nafsin wahida ». Ça, c'est un point important. Comme j'ai dit, ce sont des remarques préliminaires qui vont vous permettre de situer le cadre des réponses islamiques. Les savants de Usul al-Fiqh disent, lorsqu'ils ont lu ce verset, min nafsin wahida, ils disent ceci: hunaka tasawun fi at-taklif al-ilahi. Il y a une égalité dans la responsabilité dont Dieu a chargé l'homme et la femme. Pourquoi? Par principe de base. Par principe de base, imra'atun min nafsin wa ar-rajulu min nafsin, donc ils sont égaux, donc le principe c'est qu'il y a taklif de la même manière. Ça c'est le principe. Mais après, Dieu subhanahu wa ta'ala va prendre en considération la capacité physique. Donc par rapport au genre, هذا انسان, un être humain, cet être humain, il est rajulun wa mara'a. Dieu s'adresse à eux de la même manière. Et puis Dieu subhanahu wa ta'ala après, par rapport à leur capacité, il dit la charge, elle devient différente. comme on a dit, la différence entre le voyageur et le résident, le malade et le bien portant, l'adulte et l'enfant en bas âge, et ainsi de suite. Le pauvre et le riche, le riche il doit s'acquitter de la zakat, le pauvre il ne s'en acquitte pas. Et bien c'est la même chose que Dieu prend en considération lorsqu'on vient à l'analyse de la situation et de la capacité physique de l'homme et de la femme. L'être humain, gardez ce qui suit, il a deux images. Une image physique qui fait qu'il y a différence entre homme et femme au niveau capacité, et puis il y a une image unique qui est celle de l'être humain, c'est ce qu'on appelle le nafs, où ils sont égaux à part entière. J'espère que c'est clair cette introduction parce qu'elle est importante pour que vous compreniez un petit peu l'aspect de l'islam. L'islam, donc, on a dit, a rétabli une égalité totale dans l'humanisme, on va dire, entre l'homme et la femme. Donc ça c'est la sourate Nisa verset 4. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad et Abu Dawud et Tirmidhi, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, les femmes, certes les femmes sont les sœurs jumelles des hommes. Il parle de leur essence, de leur origine. Il n'y en a pas un être humain et l'autre c'est un être humain de seconde zone. Il n'y a pas, ce sont deux êtres humains égaux. 1. 2. L'islam a repoussé, il a banni, il a mis en cause toutes les accusations antérieures attribuées et imputées à la femme, que c'est elle qui est à l'origine de tous les maux qui ont touché l'humanité, y compris le péché original dans lequel est tombé Adam alayhi salam. Vous lisez le Coran, vous allez voir que Dieu dit subhanahu wa ta'ala, toujours il parle au duel, Muthanna. قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا فود منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا فود هذه الشجرة فتكونا فود. Donc, et plus que ça, le Coran il charge Adam plus que Hawa. Le Coran charge Adam plus que Hawa dans le péché qui a été commis au paradis. Et non pas c'est elle qui est à l'origine du mal. Parce que Dieu dit فأزلهما الشيطان وأزلهما, tous les deux. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Toujours Dieu parle fil muthanna. Il n'y a pas aucun verset, aucun hadith dans notre religion où on attribue à la femme la cause de la déchéance humaine et de la descente de nos parents du paradis vers l'enfer de la terre et ses responsabilités et ses épreuves. Il n'y a pas. Donc ça c'est une. Vous avez dans Sourate Al-Ahzab, donc la Sourate l'équalisée, hein, le verset 35, où Dieu met la responsabilité sur Adam alayhi salam. Dieu dit « Wa'asa Adam rabbahu farawa » Adam a désobéi à son Seigneur et s'est éloigné du droit chemin. Donc ça c'est 2. 3. L'islam a considéré la femme sur le même biais d'égalité que l'homme qu'elle est apte et digne de piété et de chasteté comme l'homme. Dieu dit subhanahu wa ta'ala « Man amila » Salihan min dhakarin aw untha, celui qui fait bonne œuvre, qu'il soit mâle ou femelle, alors qu'il était croyant, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Dieu lui garantit une vie, une bonne vie. Walanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. La sourate les abeilles 16, le verset 97. Donc notre religion ne dit pas que la femme elle est pécheresse. Pourquoi je dis ça? Parce que dans notre mémoire collective actuelle, qui a hérité beaucoup d'informations des siècles de la décadence des musulmans, la femme elle est devenue celle qui est désignée comme à l'origine du mal. Ah, ça. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Parce qu'il n'y a jamais une femme qui commet l'adultère sans un homme, hein. La responsabilité elle est commune, elle est partagée. Comment on fait nous? On a toujours la manière de dire الشيطان عليه لعنة. عليه لعنة, y a aucun problème. Alors que le shaitan c'est lui qui a fait l'acte ou c'est toi? Shaitan, il a trouvé quelqu'un qui lui a ouvert toutes les portes. Alors il lui a suggéré, il lui a embelli le péché. Mais celui qui fait le péché, c'est qui? C'est nous, c'est l'humain. Il ne faut pas mettre tout sur le dos du shaitan. La'anahullah. C'est pour ça que Sayyidina Ali radiallahu anhu a compris l'affaire. Nous, on n'a pas compris. Sayyidina Ali disait, ton ennemi le plus dangereux. Et nous, on se trompe toujours d'ennemi, je vous assure. À tous les niveaux, hein, on se trompe toujours d'ennemi. Il a dit, ton ennemi le plus dangereux, c'est ton âme que tu portes entre tes entrailles, tes côtes. Nafsuka et a'da a'da'ek. Nafs, هذه العدوة الداخلية. L'autre, il fait que suggérer. Celui qui est à l'extérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il t'incite, il t'encourage, il t'embellit, il te tente. Mais c'est lui qui fait tout le travail, c'est ta nafs qui est à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut travailler son nafs. Au lieu de culpabiliser l'extérieur. On culpabilise la société. On culpabilise le shaitan. Oui, la'ana Allah, mais c'est sa mission. Dieu dans le Coran, il nous a dit clairement qu'il s'est déclaré ennemi, juré. Quoi est-ce que vous attendez d'un ennemi? Vous attendez à ce que votre ennemi prenne de votre main pour montrer le droit chemin? Al-kuffar bihum alayhum. T'es d'accord, mais tu veux que le kafir, le non-musulman, il défende ta foi? Tu veux que le non-musulman structure ta religion, il structure ta communauté, il structure tes mosquées, tes SBL? C'est lui qui doit dire aux musulmans cessez d'être divergents et de vous diviser. Il fait son travail. Vous comprenez? Donc nous, on est en train de, comme disaient certains de nos penseurs contemporains, on est tombé dans le piège de la victimisation. On a oublié que l'affaire, elle est interne. Toujours, on a cette image d'accusation de la femme et l'homme, il s'oublie dans l'affaire. Alors que la responsabilité, elle est partagée à tous les niveaux. L'islam a interdit de considérer la femme comme étant la source de mauvais augure. C'est ce qui était et c'est ce qui existe encore. Celui qui a 4 filles commence à en avoir ras-le-bol. Alors que celui qui a des filles, il sait quelles sont les hasanettes qu'il y a derrière. Notre prophète a dit, si Dieu accorde à un homme 3 filles, et les éduque convenablement et les accompagne convenablement jusqu'à ce qu'il les marie, lui seront une protection du feu de l'enfer. Il n'a pas dit ça pour les hommes. Il n'a pas dit ça pour les garçons. Parce que c'est une responsabilité, c'est une amana. C'est clair. Donc il a interdit. Et dans la sourate que vous considérez, sourate At-Takwir, le verset 9, Dieu subhanahu wa ta'ala a interdit cette attitude mesquine où les gens, lorsqu'ils sont éprouvés, entre guillemets, par la naissance d'une fille, alors vous le voyez, il est triste, hein. Ceci dit, vous savez très bien quand même, il y en a des étudiants et étudiantes ici, que celui qui décide au niveau du chromosome est-ce que ça va être un garçon ou une fille, c'est ce que porte l'homme comme patrimoine génétique et non pas la femme. Hein. Si le type il marie avec une femme, il n'a que des filles, ben c'est lui. Sa constitution fait qu'il ne peut avoir que des filles. Rabbuka arada dhalik, c'est lui qui détermine les XY, c'est pas la femme. Hein. Alors il y a des gens, elle me donne des filles, c'est comme si elle, mesquine, a kiffé les commandes. Tout ça, et on met ça sur le dos de la religion. L'islam n'a rien à voir là-dedans. C'est pour ça qu'il faut commencer à balayer nos mauvaises connaissances et le patrimoine négatif qu'on a hérité pour revenir aux sources. Aux sources. L'islam a interdit que l'on considère la naissance d'une fille comme un signe de mauvais augure. 5. L'islam a interdit sa mise à mort. Comme vous savez, pendant la Jahiliya, avoir des filles, c'est un signe de honte. Alors, on l'enterre. La même chose, l'islam a ordonné le respect de la femme, fille, épouse, mère, enfant. On va donner un exemple. Un jour, notre professeur a été invité par un des notables d'une tribu et dit, le hadith, le rapporteur dit, alors il y a l'homme en discussion avec Rasoul Sallam a vu arriver son petit-fils. Alors il l'a embrassé dans ses bras et l'a mis sur son genou. Quelque temps après, sa petite fille arrive, l'homme l'accueille, l'embrasse et la met à côté de lui. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a distingué qu'il y avait une attitude, on va dire, d'inégalité, d'une attitude inégale entre le garçon et la fille, il s'est retourné au père, il a dit, tu n'as pas été juste envers eux. Comme tu as embrassé ton fils et tu l'as mis sur ton genou, tu dois faire la même chose pour la fille, l'embrasser, la mettre sur ton genou. Ou tu mets tous les deux à côté de toi. Tu n'as pas été juste envers eux. Regardez jusqu'où notre prophète sallam fait attention à des attitudes pareilles. Parce que ça marque la fille et ça donne au garçon l'idée qu'il est supérieur à sa sœur. Et c'est ce que nous voyons dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. On permet au fils, à l'enfant mâle, des attitudes. On a des câlins, on a des attitudes vis-à-vis de lui qu'on ne fait pas, qu'on n'exprime pas aux filles. Et ça, c'est quelque chose que notre prophète a déjà banni, alayhi salatu wassalam. C'est pour cela que notre mère Aïcha a dit, j'ai jamais vu une personne qui ressemble tant au prophète sallallahu alayhi wasallam que sa fille Fatima. Pourquoi? Parce qu'elle a hérité de son père d'une attitude telle, d'affection telle, qu'elle reproduit ce schéma-là. Et c'est ça que nous devons revoir. 6. L'islam a incité et a insisté sur l'éducation des femmes. D'où le fameux vers de poésie connu par tous ceux qui ont étudié en arabe, Al-Ummu Madrasatan, disent les anciens, la mère est une école. In anta adattaha, si tu la prépares, comment tu vas la préparer? Par les séries égyptiennes ou par les filles de Santa Barbara? Tu la prépares par un savoir. Une mère qui ne sait pas lire et écrire, une mère qui n'a pas de culture, quelle est sa culture? Les gamelles et les séries? Qu'est-ce qu'elle va reproduire comme schéma? Donc ils disent, Al-Ummu Madrasatan, La mère est une école. Si tu la prépares par l'éducation, par le savoir, eh ben, tu prépares une génération aux bonnes racines. C'est important. Donc l'islam a insisté pour que la femme soit enseignée, puisque notre prophète sallam leur a organisé lui-même des cours. Les femmes médinoises ont réclamé leurs droits au prophète sallam dans son enseignement. Et il a dit, c'est Nabila, il a réservé un jour pour leur enseigner la religion et les exhorter. Et notre mère Aïcha était une savante, une femme savante. Et la même, alayhi sallam, recommandait aux musulmans de chercher leur savoir auprès de cette Humaira, cette petite trousse. Cherchez, il a dit, votre savoir auprès de cette Humaira, le savoir. Sayyida Hafsa savait lire et écrire. Donc il faut ce savoir. Donc l'islam a incité, et le prophète sallam a dit clairement, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Le hadith ibn Majah, sachez s'il vous plaît qu'il n'y a pas le mot muslimatin. Pourquoi? Parce que l'islam n'a pas besoin qu'on ajoute muslimatin pour se justifier, pour dire, ah, nous sommes pour l'enseignement des femmes. Parce que cette nouvelle se rajoute, est née pour dire, ah, nous sommes pour l'éducation des femmes. Mais non, le hadith il est clair, al muslimu huwa rajul wal untha, dans notre religion. On n'a pas besoin de rajouter, de mentir sur le prophète pour dire, regardez, l'islam est une religion d'égalité. L'islam a demandé à ce que chacun, homme et femme, acquiert une connaissance minimale de sa religion sous forme de devoir. Talabul ilmi farida, obligatoire. L'islam a accordé à la femme son part à l'héritage qui était inexistant dans l'histoire humaine. L'islam a organisé les responsabilités et les devoirs des deux conjoints dans la vie du couple. Avant, il n'y avait pas d'organisation. Il y avait un sayyid, un maître et une servante. L'islam a dit, hunaka huququn wa wajibat. Il y a des droits et des devoirs partagés. L'islam a organisé même la séparation entre l'homme et la femme, où la femme était sujet de rejet, et même plus que ça. La femme, elle était dominée par l'homme jusqu'à une situation où elle restait, comme dit dans le Coran, kalmu'allaqa. Le mu'allaq, ça soit, c'est quelqu'un de suspendu entre ciel et terre. Il n'est pas dans le ciel, il n'est pas sur terre. Alors le type, qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Je te divorce pas, mais tu n'es pas, mais je te touche plus. Alors elle est là jusqu'à sa mort. Elle n'est ni épouse, ni personne libre de disposer de sa vie. L'islam est venu la structurer le divorce. L'islam a considéré que la femme, dès qu'elle arrive à l'âge de la responsabilité de la puberté, elle a une responsabilité légale égale à celle de l'homme. On appelle ça l'ahliya. L'ahliya, c'est-à-dire la capacité au niveau de la responsabilité juridique et sociale. Dès qu'elle arrive à sa puberté, elle a la même responsabilité. Et donc, si elle ratifie des contrats, quel qu'il soit le contrat il est valide en justice. Elle n'a pas à attendre la permission de son père ni de son mari lorsqu'il s'agit de ses droits à elle. On reviendra à ça lorsqu'on parlera de la liberté et du droit économique de la femme. Dieu dit dans le Coran, donc walahunna mithlu allazi alayhinna. Elles ont pour elles des droits comme elles leur incombent des devoirs. C'est partagé. Les savants musulmans et les imams mujtahid, ils ont dit ceci: chaque fois que dans le Coran nous trouvons la formulation générale, on appelle ça l'umum. Et eh bien, dans cette formulation générale, on ne peut en aucune manière exclure les femmes. Les femmes sont concernées au même pied d'égalité que l'homme. C'est-à-dire, lorsque vous prenez un verset, Ya ayyuhalladhina amanu, ne cherchez pas où est le verset qui parle des femmes. Elles sont dedans. La formulation de langue arabe, c'est la formulation au pluriel masculin. Mais dans cette formulation, les nisa sont concernées. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi. Il ne parle pas que des hommes ici, subhanahu wa ta'ala. Il parle des hommes et des femme, ça s'appelle siratul umum. Donc, et tous les savants, tous les érudits sont d'accord, siratul umum, la formulation générale, implique que le discours s'adresse aux hommes et aux femmes sur le même pied d'égalité. Ça, c'est quelque chose que vous ne devez pas donc oublier sur ce point. Alors, nous allons essayer de vous passer à des questions concrètes qui vous expliquent la position de l'islam par rapport aux femmes. On va commencer par le mariage. Rapidement, c'est pas le lieu pour parler du mariage.